Chapitre 1 Les sacrifices Introduction Dieu parlant depuis le tabernacle. Avant d'entrer dans les détails du sujet qui va nous occuper, nous avons à considérer la position que prend l'Éternel dans le livre du Lévitique, puis l'ordre dans lequel s'y succèdent les offrandes qui font l'objet de la première partie du livre. Et l'Éternel appela Moïse et lui parla de la tente d'assignation. Verset 1. Il avait parlé du haut du Sinaï, et la position qu'il avait ainsi prise sur cette montagne marquait ses communications d'un caractère particulier. De la montagne en feu, Dieu donna une loi de feu, mais dans le Lévitique, l'Éternel parle depuis le tabernacle que nous avons vu dressé à la fin du livre précédent. Là, nous avions lu « Et il dressa le parvis tout autour du tabernacle et de l'autel et mit le rideau à la porte du parvis. Et Moïse acheva l'œuvre. Et la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Car la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle le jour, et un feu y était la nuit, aux yeux de toute la maison d'Israël, dans toutes leurs traites. » Exode 40, versets 33 à 38. Or, le tabernacle était l'habitation de Dieu en grâce. L'Éternel pouvait y établir sa demeure, parce qu'il y était entouré de tous côtés de ce qui représentait d'une manière vivante le fondement de ses rapports avec son peuple. S'il était venu au milieu d'Israël dans la gloire terrible dans laquelle il s'était révélé sur la montagne de Sinaï, il n'aurait pu que consumer inexorablement ce peuple de cou roide. Mais l'Éternel se retira en dedans du voile, type de la chair de Christ, Hébreux 10, verset 20, et prit place au-dessus du propitiatoire, où le sang de l'expiation, et non l'esprit de rébellion et le cou roide d'Israël, Deutéronome 31, verset 27, se présentait à sa vue et répondait aux exigences de sa nature. Ce sang, apporté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur, était le type du sang plus précieux qui purifie de tout péché. Et bien qu'Israël, selon la chair, n'ait rien discerné de tout cela, ce sang, néanmoins, permettait à Dieu de demeurer au milieu de son peuple. Il sanctifiait pour la pureté de la chair. Hébreux 9, verset 13. Telle est donc la position que l'Éternel occupe dans le Lévitique. Position qu'il ne faut pas oublier, si l'on veut avoir une juste intelligence des communications que ce livre renferme. Ces communications portent toutes l'empreinte d'une inflexible sainteté jointe à la grâce la plus pure. Dieu est saint, quel que soit le lieu d'où il parle. Il était saint sur la montagne de Sinaï, et il était saint au-dessus du propitiatoire. Mais, dans le premier cas, sa sainteté était liée à un feu dévorant, tandis que, dans le second cas, elle était unie à la grâce patiente. Or, l'union de la parfaite sainteté et de la parfaite grâce est ce qui caractérise la rédemption en Jésus-Christ. Rédemption qui se trouve préfigurée de diverses manières dans le livre du Lévitique. Il faut qu'il soit connu que Dieu est saint, même si ce doit être dans la condamnation éternelle des pécheurs impénitents. Mais la pleine révélation de sa sainteté, dans le salut des pécheurs, fait éclater dans les cieux un concert de louanges. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. Luc 2, verset 14. Cet hymne de louanges n'aurait pu retentir quand fut donnée la loi de feu. Car si à la loi de Sinaï se liait la gloire de Dieu dans les lieux très hauts, cette loi n'apportait point de paix sur la terre, ni de bon plaisir dans les hommes. C'était en effet la déclaration de ce que les hommes devaient être pour que Dieu puisse prendre plaisir en eux. Mais lorsque son Fils prit place, comme homme sur la terre, les créatures célestes purent exprimer la pleine satisfaction du ciel en lui. Il était celui dont la personne et l'œuvre pouvaient unir, d'une manière parfaite, la gloire divine et la bénédiction de l'homme. Ordre des diverses offrandes. Nous devons dire un mot maintenant sur l'ordre dans lequel les offrandes se suivent dans les premiers chapitres de notre livre. Dieu met au premier rang l'Holocauste, et terminent par le sacrifice pour le délit. Ils finissent par où nous commençons. Cet ordre est remarquable et très instructif. Quand, pour la première fois, l'épée de la conviction de péché entre dans l'âme, la conscience recherche les fautes passées qui pèsent sur elle. La mémoire porte ses regards en arrière sur les pages de la vie écoulée et les voit noircies par d'innombrables transgressions contre Dieu et contre les hommes. À ce moment, l'âme est moins occupée de la source de ses manquements que du fait que tel ou tel acte a été effectivement commis par elle. C'est pourquoi elle a besoin de savoir que Dieu, dans sa grâce, a donné un sacrifice, en vertu duquel toute faute peut être gratuitement pardonnée. Colossiens 2, verset 13. Et ce sacrifice, Dieu nous le présente dans l'offrande pour le délit. Mais, à mesure que l'âme progresse dans la vie divine, elle devient consciente que ces péchés qu'elle a commis ne sont que les rejetons d'une racine et que c'est le péché dans la chair qui est cette racine. Cette découverte conduit à un travail intérieur bien plus profond encore, que rien ne peut apaiser si ce n'est une intelligence plus profonde de l'œuvre de la croix. Dieu nous enseigne qu'il a lui-même condamné le péché dans la chair. Romains 8, verset 3. Le lecteur remarquera qu'il n'est pas question, dans ce passage de l'Épître aux Romains, des péchés dans la vie, mais de la racine dont ceux-ci sont provenus. Le péché dans la chair. C'est là une vérité d'une immense importance. Christ n'est pas seulement mort pour nos péchés selon les Écritures, 1 Corinthiens 15, verset 3, mais il a été fait péché pour nous, 2 Corinthiens 5, verset 21. Telle est la doctrine du sacrifice pour le péché. Quand, par la connaissance de l'œuvre de Christ, la paix est entrée dans le cœur et dans la conscience, nous pouvons nous nourrir de Christ, qui est le fondement de notre paix et de notre joie, dans la présence de Dieu. Jusque-là, jusqu'à ce que nous voyions toutes nos transgressions pardonnées et notre péché jugé, nous ne pouvons goûter ni paix ni joie. Il faut que nous connaissions l'offrande pour le délit et l'offrande pour le péché avant que nous puissions apprécier le sacrifice de prospérité, sacrifice de réjouissance et d'action de grâce. C'est pourquoi le rang donné ici au sacrifice de prospérité répond, mais toujours de façon inverse, à l'ordre selon lequel nous saisissons Christ spirituellement. Le même ordre parfait se retrouve quant au rang assigné à l'offrande de gâteau. Quand une âme a été amenée à goûter la douceur de la communion spirituelle avec Christ, quand elle sait se nourrir de lui, en paix et avec reconnaissance, dans la présence de Dieu, elle se sent pressée d'un ardent désir de connaître davantage les glorieux mystères de sa personne. Et Dieu, dans sa grâce, répond à ce désir par l'offrande de gâteau, type de la parfaite humanité de Christ. Après tous les autres sacrifices, vient enfin l'Holocauste, le couronnement de tout, la figure de l'œuvre de la croix accomplie pour la gloire de Dieu, expression de l'invariable dévouement du cœur de Christ. Nous étudierons plus loin tous ces sacrifices en détail. Nous ne faisons ici que considérer l'ordre relatif dans lequel ils sont placés, ordre admirable de quelque côté que nous l'envisagions, et qui commence et finit par la croix. Si nous descendons de Dieu à nous, et que, suivant l'ordre extérieur, nous commençons par l'Holocauste, nous voyons, dans cette offrande, Christ sur la croix, accomplissant la volonté de Dieu, faisant l'expiation en se donnant lui-même tout entier pour Dieu. Si au contraire, suivant l'ordre intérieur, nous remontons de nous à Dieu, et commençons par l'offrande pour le délit, nous voyons, dans cette offrande, Christ sur la croix, portant nos péchés et les abolissant, selon la perfection de son sacrifice expiatoire. Partout, dans l'ensemble aussi bien que dans les détails, brillent l'excellence, la beauté et la perfection du Sauveur. Tout est fait pour éveiller dans nos cœurs un profond intérêt pour l'étude de ces types précieux qui sont l'ombre dont la réalité est Christ. Que Dieu, qui nous a donné ce livre du Lévitique, veuille nous en fournir lui-même l'explication par l'Esprit, en sorte que, quand nous l'aurons parcouru, nous bénissions son nom pour toutes ces saisissantes images de la personne et de l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Holocauste. Christ s'offrant lui-même à Dieu. L'Holocauste ouvre ce livre. Il nous présente un type de Christ s'offrant lui-même à Dieu sans tache. Hébreux 9, verset 14. C'est pourquoi le Saint-Esprit lui assigne la première place. Si le Seigneur Jésus s'est présenté pour accomplir l'œuvre glorieuse de l'expiation, c'est que l'objet suprême qu'il poursuivait dans cette œuvre était la gloire de Dieu. Voici, je viens, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Psaume 40, versets 6 à 8. Ces paroles étaient la devise de Jésus, dans chacun des actes, dans chacune des circonstances de sa vie. Et jamais elles ne trouvèrent une plus complète expression que dans l'œuvre de la croix. Quelle que puisse être la volonté de Dieu, Christ est venu pour la faire. Béni soit Dieu, nous savons quelle est notre part dans ces résultats. C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. Hébreux 10, verset 10. Toutefois, l'œuvre de Christ se rapportait avant tout à Dieu. Christ trouvait son bonheur à accomplir sur cette terre la volonté de Dieu. C'est ce que nul homme n'avait fait avant lui. Par la grâce, quelques-uns avaient fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. 1 Roi 15, versets 5, 11 et 14, verset 8. Mais personne n'avait jamais fait la volonté de Dieu toujours, parfaitement et sans hésitation. Le Seigneur Jésus fut l'homme obéissant. Il fut obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Philippiens 2, verset 8. Il dressa sa face résolument pour aller à Jérusalem. Luc 9, verset 51. Et plus tard, en marchant du jardin de Gethsémané à la croix du calvaire, il exprimait le dévouement absolu de son cœur en disant « La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ?» Jean 18, verset 11. Or, il y avait certainement un parfum d'agréable odeur dans ce dévouement absolu de Jésus à Dieu. Un homme parfait sur la terre, accomplissant la volonté de Dieu, même dans la mort, était pour le ciel un objet digne du plus haut intérêt. Qui pouvait sonder les profondeurs de ce cœur dévoué qui se manifesta sous le regard de Dieu à la croix? Nul autre que Dieu, assurément. Les types du Lévitique. En ceci, comme en tout ce qui touche au mystère de sa glorieuse personne, il est vrai que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Matthieu 11, verset 27. Et nul ne peut connaître quoi que ce soit du Fils, à moins que le Père ne le lui révèle. L'esprit de l'homme peut saisir en quelque mesure les choses qui sont sous le soleil. Le savoir humain est du domaine de l'intelligence de l'homme, mais personne ne connaît le Fils, à moins que le Père ne le révèle, par la puissance du Saint-Esprit, par la parole écrite. Le Saint-Esprit prend plaisir à révéler le Fils, à prendre les choses de Jésus et à nous les montrer. Et ces choses, nous les possédons dans toute leur beauté et leur plénitude dans l'Écriture. Il ne peut y avoir aucune nouvelle révélation, car le Saint-Esprit rappela toutes choses au souvenir des apôtres et les conduisit dans toute la vérité. Jean 14, verset 26 et 16, verset 13. Il ne peut rien y avoir de plus que toute la vérité. Ainsi, toute prétention à une révélation nouvelle, à un développement d'une vérité nouvelle, c'est-à-dire non contenue dans le canon des livres inspirés, n'est qu'un vain effort de l'homme qui voudrait ajouter quelque chose à ce que Dieu appelle toute la vérité. Le Saint-Esprit peut, sans doute, développer et appliquer avec une puissance nouvelle et extraordinaire la vérité contenue dans l'Écriture. Mais c'est là, évidemment, quelque chose de tout différent. Dans les Évangiles, Christ nous est présenté sous les divers aspects de son caractère, de sa personne et de son œuvre. Les enfants de Dieu, dans tous les âges, ont pris plaisir à les lire et les relire. Ils se sont abreuvés de leurs révélations au sujet de celui qui est l'objet de leur amour et de leur confiance et auquel ils doivent tout pour le temps et l'éternité. Mais bien petit, comparativement, est le nombre de ceux qui ont été amenés à considérer les rites et les cérémonies de l'économie lévitique comme étant remplies des instructions les plus détaillées sur le même sujet glorieux. Les offrandes, du Lévitique en particulier, ont été envisagées trop souvent comme des documents surannés concernant les coutumes juives, n'ayant aucun intérêt pour nous et ne nous communiquant aucune lumière spirituelle. Il faut reconnaître pourtant que les pages du Lévitique, en apparence si peu attrayantes et si chargées de détails cérémoniels, ont, aussi bien que les sublimes oracles d'Ésaïe, leur place parmi les choses qui ont été écrites auparavant et qui ont été écrites pour notre instruction. Romains 15, verset 4. Sans doute, il faut que nous étudions le contenu de ce livre, comme d'ailleurs toute l'Écriture, avec un esprit humble et dépouillé du moi. Il nous faut une dépendance respectueuse de l'enseignement de celui qui y parle. Nous avons à prêter une attention constante au grand but, à la portée des textes et à leur analogie générale avec l'ensemble de la révélation, maîtrisant notre imagination pour qu'elle ne s'égare pas dans des élans profanes. Mais si, par la grâce de Dieu, nous entrons ainsi dans l'étude des types du Lévitique, nous y trouverons une mine profonde et des plus riches. La gloire essentielle de Christ. Passons donc maintenant à l'examen de l'Holocauste qui, comme nous l'avons remarqué, représente Christ s'offrant lui-même à Dieu. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il la présentera un mâle sans défaut. Verset 3. La gloire essentielle de la personne de Christ forme la base du christianisme. Or cette dignité et cette gloire qui lui appartiennent, Christ les communique à tout ce qu'il fait et à chacune des fonctions qu'il remplit. Aucune fonction ne pouvait rien ajouter à la gloire de celui qui est, sur toute chose, Dieu béni éternellement. Romains 9, verset 5. Dieu manifesté en chair. 1 Timothée 3, verset 16. Le glorieux Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 1, verset 23. Ésaïe 7, verset 14. La parole éternelle, le Créateur et le Conservateur de l'univers. Toutes les fonctions de Christ se rattachaient à son humanité. Et en prenant cette humanité, il descendit de cette gloire qu'il avait auprès du Père avant la fondation du monde. Il descendit ainsi au milieu d'une scène où tout lui était contraire, afin de glorifier Dieu parfaitement. Il vint ici-bas pour y être dévoré par un saint et inextinguible zèle pour la gloire de Dieu, psaume 69, verset 9, et pour accomplir ses conseils éternels. La valeur de la croix de Christ pour Dieu. Le mâle sans défaut est un type du Seigneur Jésus s'offrant lui-même pour le parfait accomplissement de la volonté de Dieu. Cette offrande ne devait avoir aucune marque de faiblesse ou d'imperfection. Il fallait pour l'Holocauste un mâle d'un an, voir Exode 12, verset 5. Quand nous examinerons les autres offrandes, nous verrons qu'il était permis, dans certains cas, d'offrir une femelle. Non pas que Dieu ait jamais pu tolérer un défaut dans une offrande, elle devait, partout et toujours, être sans défaut. Mais Dieu laissait, dans certains cas, une latitude exprimant l'imperfection attachée à l'intelligence de l'adorateur. L'Holocauste était une offrande de l'ordre le plus élevé, car elle représentait Christ s'offrant lui-même à Dieu, Christ tout entier, et exclusivement pour l'œil et le cœur de Dieu. C'est là un point qu'il faut bien saisir. Dieu seul pouvait estimer à sa juste valeur la personne et l'œuvre de Christ. Seul, il pouvait apprécier pleinement la croix et le dévouement parfait de Christ dont elle était l'expression. La croix, représentée par l'Holocauste, renfermait quelque chose que la pensée divine seule pouvait comprendre. Elle avait des profondeurs que ni mortel ni ange ne pouvait sonder. Elle parlait d'une voix qui n'était que pour l'oreille du Père, et qui s'adressait directement et exclusivement à lui. Il y avait, entre la croix du calvaire et le trône de Dieu, des communications qui dépassent de beaucoup les plus hautes capacités des intelligences créées. Il la présentera à l'entrée de la tente d'assignation pour être agréé devant l'Éternel. Verset 3. Le caractère de l'Holocauste que l'Écriture fait ressortir ici nous fait contempler la croix sous un aspect qui n'est pas suffisamment compris. Nous sommes trop enclins à regarder la croix simplement comme le lieu où la grande question du péché fut traitée et réglée entre la justice éternelle et la victime sans tache, comme le lieu où notre crime fut expié et où Satan fut glorieusement vaincu. La croix est tout cela, mais elle est plus encore. Elle est le lieu où l'amour de Christ pour le Père fut manifesté et exprimé en un langage que le Père seul pouvait comprendre. Et c'est sous ce dernier aspect qu'elle est représentée, en type, dans l'offrande de l'Holocauste, qui est une offrande essentiellement volontaire. S'il n'était question que du péché et de la colère de Dieu à cause du péché, l'offrande ne pourrait pas être laissée à la volonté de celui qui l'offre. Elle serait nécessairement obligatoire. Le Seigneur Jésus ne pouvait pas désirer être fait péché. 2 Corinthiens 5, verset 21. Désirer, endurer la colère de Dieu et être privé de la clarté de sa face. Et ce fait, à lui seul, nous montre de la manière la plus évidente que l'offrande de l'Holocauste ne représente pas Christ sur la croix portant le péché, mais Christ sur la croix accomplissant la volonté de Dieu. Les propres paroles du Christ nous apprennent que lui-même contemplait la croix sous ces deux différents aspects. Quand il envisageait la croix comme le lieu de l'expiation du péché, quand il anticipait les souffrances qu'à ce point de vue elle renfermait, il s'écriait « Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi » Luc 22, verset 42. Il était saisi d'effroi devant ce que son œuvre entraînait pour lui. Son âme sainte et pure reculait à la pensée d'être fait péché, et son cœur aimant à celle de perdre pour un moment la lumière de la face de Dieu. Mais la croix avait aussi un autre aspect pour Christ. Elle lui apparaissait comme le lieu où il pouvait révéler les profonds secrets de son amour pour le Père, comme le lieu où, de son plein gré, il pouvait prendre la coupe que le Père lui avait donnée à boire et la vider jusqu'à la lie. Sans doute, la vie tout entière de Christ exhalait un parfum d'agréable odeur qui montait sans cesse vers le trône du Père. Il faisait toujours les choses qui plaisaient au Père. Il faisait toujours la volonté de Dieu. Mais l'Holocauste ne représente pas Christ dans sa vie, quelque précieux qu'ait été chacun des actes de cette vie, mais Christ dans sa mort. Dans cette mort, non comme celui qui était devenu malédiction pour nous, mais comme celui qui est présenté au cœur du Père, un parfum infiniment agréable. Cette vérité revêt la croix d'un attrait particulier et communique aux souffrances de notre bien-aimé Sauveur un intérêt puissant. Le pécheur coupable trouve à la croix la réponse de Dieu aux besoins les plus profonds de son cœur et de sa conscience. Le vrai croyant trouve à la croix ce qui captive toutes les affections de son cœur, ce qui transperce tout son être moral. Les anges trouvent à la croix un sujet de continuelle admiration. Ils désirent regarder de près dans ces choses. Voir 1 Pierre 1, verset 11 et 12. Tout cela est vrai, mais il y a dans la croix quelque chose qui surpasse de beaucoup ce que peuvent saisir les saints ou les anges. C'est le profond dévouement du cœur du Fils, offert au cœur du Père et apprécié par lui. Tel est le côté de la croix qui est préfiguré dans l'offrande de l'Holocauste. Une offrande volontaire. Je ferai remarquer ici que, si nous admettions, comme quelques-uns, que Christ porta toute sa vie le péché, la beauté particulière de l'offrande de l'Holocauste serait entièrement perdue. Le caractère volontaire de l'offrande disparaîtrait, car comment l'abandon de sa vie pourrait-il être un acte volontaire chez quelqu'un qui, par la nécessité même de sa position, serait obligé de laisser cette vie? Si Christ avait porté le péché pendant sa vie, sa mort serait devenue un acte nécessaire et n'aurait plus été ce qu'elle est, un acte volontaire. On peut en outre affirmer qu'il n'y a pas une offrande dont l'intégrité et la beauté ne soient pas sacrifiées par la fausse doctrine d'un Christ portant le péché dans sa vie. L'Holocauste, nous le répétons, ne nous présente pas Christ comme portant le péché ou endurant la colère de Dieu, mais Christ dans son dévouement volontaire, manifesté dans la mort de la croix. Le Fils de Dieu a accompli par le Saint-Esprit la volonté du Père. Il le fit de son plein gré, selon ce qu'il dit lui-même, « À cause de ceci le Père m'aime, c'est que moi je laisse ma vie, afin que je la reprenne. Personne ne me l'ôte, mais moi je la laisse de moi-même. J'ai le pouvoir de la laisser, et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Jean 10, versets 17 et 18. Mais Ésaïe, contemplant Christ comme offrande pour le péché, dit « Sa vie est ôtée de la terre. Acte 8, verset 33, citant Ésaïe 53, verset 8. Or, Christ parlait-il de porter le péché? Parlait-il de l'expiation quand il disait de sa vie « Personne ne me l'ôte, mais moi je la laisse de moi-même » Personne ne la lui est ôte, ni homme, ni ange, ni démon, ou qui que ce soit d'autre. Laisser sa vie était de sa part un acte volontaire. Il l'a laissée afin de la reprendre. C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir. Psaume 40, verset 8. Tel était le langage de celui qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu sans tache, Hébreux 9, verset 14, ainsi que le préfigurait l'Holocauste. Or, il est de la plus haute importance de bien comprendre quel est l'objet principal que Christ poursuit dans l'œuvre de la rédemption. La paix du croyant ne peut qu'en être affermie. Accomplir la volonté de Dieu, établir les conseils de Dieu, manifester la gloire de Dieu, telle était la première pensée de ce cœur dévoué du Sauveur qui envisageait toute chose en rapport avec Dieu. Christ ne s'arrêta jamais pour savoir de quelle manière un acte ou une circonstance quelconque l'affectait, lui. Il s'anéantit lui-même. Il s'abaissa lui-même, Philippiens 2, versets 7 et 8. Il renonça à tout. C'est pourquoi, au terme de sa course, il put élever les yeux vers le ciel et dire « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Jean 17, verset 4. Il est impossible de contempler cette face de l'œuvre de Christ, dont nous parlons ici, sans que le cœur soit attiré vers lui et soit rempli des affections les plus douces pour sa personne. Avoir compris que Christ a eu Dieu pour premier objet dans l'œuvre de la croix ne porte aucune atteinte au sentiment que nous avons de son amour pour nous, bien au contraire. Cet amour, et notre salut en lui, ne pouvait être fondé que sur la gloire de Dieu qu'il établissait dans sa mort. La gloire de Dieu doit constituer le solide fondement de toute chose. Aussi vrai que je suis vivant, toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel. Nombre 14, verset 21. Mais nous savons que cette gloire éternelle de Dieu et le bonheur éternel de la créature sont inséparablement unis dans les conseils divins, en sorte que si la première est assurée, le bonheur de la créature l'est aussi. Identification de l'adorateur avec l'Holocauste. Et il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, et il sera agréé pour lui, pour faire propitiation pour lui. Verset 4. L'acte de l'imposition des mains est l'expression d'une complète identification. Par cet acte, l'offrande et celui qui la présentait devenaient un. Et dans l'Holocauste, cette unité rendait agréable celui qui offrait, selon toute la valeur et l'acceptation de l'offrande qu'il apportait. L'application de ceci à Christ et aux croyants met en lumière une vérité des plus précieuses, largement développée dans le Nouveau Testament, savoir l'identification éternelle du croyant avec Christ et son acceptation en lui. Comme il est, lui, nous sommes, nous aussi, dans ce monde. 1 Jean 4, verset 17 et 5, verset 20. Pour notre félicité éternelle, il ne nous fallait pas moins que cela. Celui qui n'est pas en Christ est dans ses péchés. On ne peut pas être partiellement en Christ, ou bien vous êtes en Christ, ou bien vous êtes hors de lui, dans vos péchés. N'y aurait-il que l'épaisseur d'un cheveu entre vous et Christ, vous êtes sous la condamnation et la colère divine. Mais si vous êtes en lui, vous êtes comme il est, devant Dieu, est tenu pour tel, en présence de sa sainteté infinie. Vous êtes accompli en lui, Colossiens 2, verset 10. Rendu agréable dans le bien-aimé, Éphésiens 1, verset 6. Membre de son corps, de sa chair, de ses os, Éphésiens 5, verset 30. Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui, 1 Corinthiens 6, verset 17. Tel est l'enseignement simple et clair de la parole de Dieu. Il n'est pas possible que le chef et les membres soient acceptables dans des mesures différentes. La tête et les membres sont un. Cette vérité est à la fois le fondement de la confiance la plus haute et de l'humilité la plus profonde. Elle nous donne la plus entière certitude, toute assurance au jour du jugement, 1 Jean 4, verset 17, puisqu'il est impossible qu'il soit mis quoi que ce soit à la charge de celui auquel nous sommes unis. Et elle nous donne un profond sentiment de notre néant, puisque notre union avec Christ est fondée sur la mort du vieil homme et sur l'abolition complète de tous ses droits et de toutes ses prétentions. Puisque la tête et les membres sont considérés comme agréés ensemble et comme occupant la même position dans la faveur de Dieu, il est évident que tous les membres ont part à un même salut, à une même vie, à une même justice, à une même faveur. Il n'y a pas de degré dans la justification et l'adoption. Le petit enfant en Christ a part à la même justification que le croyant avancé en expérience. L'un et l'autre sont en Christ. Il n'existe ni deux espèces de vie, ni deux espèces de justification, quoiqu'il y ait sans doute divers degrés de jouissance de cette justification, et plus ou moins d'intelligence et de capacité pour en manifester la puissance. On confond fréquemment la jouissance de la justification avec la justification elle-même. Celle-ci, en tant que divine, est nécessairement éternelle, absolue, invariable. Elle ne dépend pas des expériences humaines. Il n'y a pas de progrès dans la justification. Le croyant n'est pas plus justifié aujourd'hui qu'il ne l'était hier, et il ne le sera pas davantage demain qu'il ne l'est aujourd'hui. Celui qui est dans le Christ Jésus est aussi complètement justifié ici-bas que s'il était devant le trône de Dieu. Il est accompli en Christ. Il est comme Christ. Selon le témoignage de Christ lui-même, il est tout net. Jean 13, verset 10. Il pourra faire, et s'il marche selon l'Esprit, il fera des progrès dans la connaissance et dans la jouissance de cette glorieuse réalité. Mais, quant à la chose elle-même, du moment que, par la puissance du Saint-Esprit, quelqu'un a cru l'Évangile, il est passé d'un état positif d'injustice et de condamnation à un état positif de justice et d'acceptation. Cet état est fondé sur la perfection de l'œuvre de Christ, tout comme dans l'Holocauste, l'acceptation de l'adorateur était fondée sur la valeur de son offrande. Il n'était pas question de ce qu'il était pour lui, mais de ce qu'était son sacrifice. Il sera agréé pour lui, pour faire propitiation pour lui. La place des sacrificateurs. Et il égorgera le jeune taureau devant l'Éternel, et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, présenteront le sang, et ils feront aspersion du sang tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 5. En considérant l'Holocauste, il ne faut jamais oublier la grande vérité qui est mise en lumière dans cette offrande. Ce n'est pas l'expiation répondant aux besoins de la conscience du pécheur, mais la présentation à Dieu de ce qui lui était infiniment agréable, l'offrande volontaire que Christ a faite de lui-même à Dieu et qui devenait un motif nouveau pour l'amour du Père. Jean 10, verset 17. La mort de Christ, telle qu'elle est préfigurée dans l'Holocauste, apparaît comme l'expression du dévouement inébranlable de Christ pour le Père. Christ n'y est pas présenté comme portant le péché, sous le poids de la colère de Dieu, mais comme l'objet de la satisfaction sans mélange du Père dans l'offrande volontaire et d'agréable odeur qu'il fait de lui-même. La propitiation dans l'Holocauste n'est pas seulement proportionnée aux besoins de la conscience de l'homme, mais au désir ardent du cœur de Christ qui, au prix du sacrifice de sa vie, a voulu accomplir la volonté de Dieu et assurer l'exécution de ses conseils. Rien n'a pu ébranler Christ dans la poursuite de ce désir. Lorsque Pierre, dans son ignorance, cherche à le dissuader d'affronter la honte et l'opprobre de la croix, quelle est la réponse de Jésus ? Va, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu mais à celles des hommes. Matthieu 16, versets 22 et 23. De même, dans une autre occasion, il dit à ses disciples : Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef du monde vient, et il n'a rien en moi. Mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père, et selon que le Père m'a commandé, ainsi je fais. Jean 14, versets 30 et 31. La place et les fonctions qui sont assignées aux fils d'Aaron dans l'Holocauste sont en parfait accord avec ce que nous venons de dire sur la signification spéciale de cette offrande. Ils feront aspersion du sang, ils mettront du feu sur l'autel, ils arrangeront du bois sur le feu, ils arrangeront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois qui est sur le feu qui est sur l'autel. Versets 5 à 8. Ce sont là des actes bien marquants et qui constituent un trait saillant de l'offrande de l'Holocauste quand nous la comparons avec l'offrande pour le péché, dans laquelle les fils d'Aaron ne sont pas mentionnés du tout. Les fils d'Aaron représentent l'Église, non comme corps, mais comme maison spirituelle ou famille de sacrificateurs. Ceci est facile à comprendre, car si Aaron est un type de Christ, la maison d'Aaron est un type de la maison de Christ. Ainsi, nous lisons dans l'Épître aux Hébreux que Christ est fidèle comme fils sur sa maison, et nous sommes sa maison. Hébreux 3, verset 6. Et encore, « Me voici, moi, et les enfants que Dieu m'a donnés. » Hébreux 2, verset 13. Or, c'est le privilège de l'Église, en tant que conduite et enseignée par le Saint-Esprit, de contempler cette face de l'œuvre de Christ qui nous est présentée dans le premier des types du Lévitique et d'y trouver son plaisir. Notre communion est avec le Père, 1 Jean 1, verset 3, qui, dans sa bonté, nous appelle à partager ses pensées au sujet de Christ. Nous ne pouvons, il est vrai, jamais nous élever à toute la hauteur de ses pensées, mais nous pouvons y avoir notre part, par le Saint-Esprit qui demeure en nous. Et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, présenteront le sang et ils feront aspersion du sang tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 5. Encore ici, nous trouvons un type de l'Église envisagé comme compagnie de sacrificateurs apportant le mémorial d'un sacrifice accompli et le présentant là où le simple adorateur avait accès. Mais le sang que les sacrificateurs offrent ici est, il ne faut pas l'oublier, le sang de l'Holocauste et non celui de l'offrande pour le péché. C'est l'Église entrant par la puissance du Saint-Esprit dans la pensée du parfait dévouement que Christ a manifesté envers Dieu. Ce n'est pas un pécheur condamné, saisissant la valeur du sang de celui qui a porté le péché. Les fils d'Aaron ne représentent pas des pécheurs convaincus de péché, mais des saints rendant culte. C'est comme sacrificateurs qu'ils ont affaire avec l'Holocauste. Il ne faut pas penser qu'un homme qui prend place devant Dieu comme adorateur refuse par cela de reconnaître qu'il est un pécheur indigne. En lui-même, le croyant n'est rien du tout, mais en Christ, il est un adorateur purifié. Il a accès dans le sanctuaire non comme un pécheur coupable, mais comme un sacrificateur rendant culte en vêtements de gloire. Être occupé de ma culpabilité dans la présence de Dieu, ce n'est pas de l'humilité à l'égard de ce qui me concerne, mais de l'incrédulité à l'égard du sacrifice. La propitiation. Il est écrit, « Il sera agréé pour lui pour faire propitiation pour lui. » Verset 4. La propitiation est mesurée ici non par les profondeurs de la culpabilité de l'homme, mais par la perfection de l'abandon que Christ a fait de lui-même à Dieu et par l'infinie satisfaction que Dieu trouve en celui qui s'est ainsi offert. Ceci nous donne l'idée la plus élevée de la propitiation. Si je contemple Christ comme offrande pour le péché, je vois la propitiation faite selon les exigences de la justice divine à l'égard du péché. Mais si je regarde l'Holocauste, l'œuvre de propitiation m'apparaît revêtue de toute la perfection de Christ et de sa capacité à accomplir la volonté de Dieu, ainsi que selon le bon plaisir de Dieu en Christ et en son œuvre. Combien parfaite se révèle une telle propitiation, fruit du dévouement de Christ à Dieu? Y aurait-il quelque chose qui pourrait dépasser ce dévouement du Fils et cette satisfaction du Père? Non, assurément. Il y a là un sujet digne d'occuper pour l'éternité la famille sacerdotale quand elle sera réunie dans les parvis de Dieu. La préparation du sacrifice. Et il écorchera l'Holocauste et le coupera en morceaux. Verset 6. L'acte cérémoniel d'écorcher est particulièrement expressif. Il consistait à enlever la partie extérieure de la victime afin que ce qui est intérieur soit pleinement révélé. Il ne suffisait pas que l'offrande soit sans défaut à l'extérieur. Il fallait aussi que l'intérieur, avec tous ses liens et ses jointures, soit mis à découvert. Ce n'est que pour l'Holocauste que cet acte est spécialement ordonné. Ce fait est en parfait accord avec tout l'ensemble du type, en ce qu'il fait ressortir la perfection du dévouement de Christ envers le Père. Son œuvre découlait des profondeurs de son être. Plus ces profondeurs étaient sondées, plus les secrets de sa vie intérieure étaient mis à découvert, et plus aussi il était manifeste qu'un dévouement sans mélange à la volonté de son Père et la recherche de sa gloire étaient les mobiles qui le faisaient agir. Et le coupera en morceaux. Cet acte présente une vérité analogue à celle qui est enseignée dans l'encens de drogue pulvérisée. Exode 30, versets 34 à 38, Lévitique 16, verset 12. Le Saint-Esprit prend plaisir à s'arrêter sur ce qui constitue le parfum et la bonne odeur du sacrifice de Christ, non seulement en le considérant comme un tout, mais aussi en tenant compte de ses plus petits détails. Dans ses diverses parties, aussi bien que dans son entier, l'Holocauste devait être sans tare, et ainsi était Christ. Et les fils d'Aaron, le sacrificateur, mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, arrangeront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois qui est sur le feu qui est sur l'autel. Versets 7 et 8. C'était là un grand privilège pour la famille sacerdotale. L'Holocauste était tout entier offert à Dieu. Il était entièrement brûlé sur l'autel. L'homme n'y avait point de part. Le mot hébreu traduit par « brûlé » ou « fumé » dans l'ordonnance de l'Holocauste est entièrement différent de celui qui est employé pour « brûler » dans l'ordonnance du sacrifice pour le péché. Quand il s'agit de l'Holocauste, le terme hébreu signifie premièrement « brûler de l'encens » en bonne odeur. Quand il s'agit du sacrifice pour le péché, le terme hébreu signifie « brûler » en général. Les fils d'Aaron, étant eux-mêmes sacrificateurs, paraissent ici autour de l'autel pour contempler la flamme d'un sacrifice agréable à Dieu, s'élevant à lui en parfum de bonne odeur. C'est un type du service que Dieu a donné à l'Église, qui a communion avec lui en ce qui regarde l'accomplissement parfait de sa volonté dans la mort de Christ. Lorsque c'est comme pécheurs convaincus de péché que nous contemplons la croix du Seigneur Jésus, nous y voyons ce qui répond à tous nos besoins. À ce point de vue, la croix donne à la conscience une paix parfaite. Mais comme sacrificateur, comme adorateur purifié, nous pouvons envisager la croix sous un autre jour. Nous la voyons comme étant l'accomplissement de la sainte résolution que Christ avait prise de faire la volonté du Père, même jusqu'à la mort. Comme pécheurs convaincus de péché, nous sommes devant l'autel des reins, où nous trouvons la paix par le sang de la propitiation qui y a été répandue. Mais comme sacrificateurs, nous sommes là pour contempler et admirer la perfection de cet holocauste, la parfaite offrande que Christ, l'homme sans tache, a faite de lui-même à Dieu. Nous n'aurions qu'une idée bien incomplète du mystère de la croix si nous n'y voyons que ce qui répond aux besoins de l'homme comme pécheur. Il y a dans la mort de Christ des profondeurs qui sont hors de la portée de l'homme et que Dieu seul a pu sonder. Il est important de remarquer que, quand le Saint-Esprit nous offre des représentations figuratives de la croix, il nous donne tout premièrement le type qui nous l'a fait voir sous celle de ses faces qui a Dieu pour objet. L'homme peut venir à cette source unique de délices. Il peut la sonder et s'y abreuver. Il peut y trouver la satisfaction des désirs les plus élevés de son âme et des facultés de sa nouvelle nature. Mais après tout, il y a dans la croix quelque chose que Dieu seul peut connaître et apprécier. Voilà pourquoi l'Holocauste a la première place dans l'ordre des sacrifices. Aucun homme ni aucun ange ne peut sonder jusqu'au fond le mystère de la mort de Christ. Mais nous pouvons discerner au moins quelques-uns de ses caractères qui rendent cette mort précieuse au-delà de toute expression pour le cœur de Dieu. C'est de la croix que Dieu recueille sa plus riche moisson de gloire. D'aucune autre manière, il n'aurait pu être glorifié comme il l'a été par la mort de Christ. C'est dans l'abandon volontaire que Christ fait de lui-même à Dieu que la gloire divine reluit dans tout son éclat. Et c'est dans cette offrande que fut posé le solide fondement de tous les conseils divins. La création était bien insuffisante pour cela. La croix fournit à l'amour divin un canal par lequel il peut couler avec justice. Par elle, Satan est à jamais confondu, et les principautés et les autorités sont produites en public. Jésus triomphant d'elle en la croix. Colossiens 2, verset 15. Un sacrifice par feu, une odeur agréable. Et il lavera avec de l'eau l'intérieur et les jambes, et le sacrificateur fera fumer le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Verset 9. Le lavage ordonné ici rendait le sacrifice, en tant que symbole, tel que Christ était dans sa nature. Il rendait le sacrifice pur, intérieurement et extérieurement. Le plus parfait accord subsistait toujours entre les motifs intérieurs de Christ et sa conduite extérieure. Celle-ci était toujours l'expression de ses motifs intérieurs. Tout en lui tendait à une seule chose, à la gloire de Dieu. Les membres de son corps obéissaient parfaitement à son cœur dévoué en accomplissant les pensées de ce cœur qui ne battait que pour Dieu et pour sa gloire dans le salut des hommes. Le sacrificateur pouvait donc bien faire fumer le tout sur l'autel. Tout était pur et n'était destiné qu'à Dieu. Il y avait des sacrifices dont le sacrificateur avait sa part, mais l'holocauste était tout entier consumé sur l'autel. Il était pour Dieu seul. Les sacrificateurs pouvaient arranger le bois et le feu et regarder monter la flamme, mais ils ne mangeaient pas du sacrifice. Depuis le moment où le jeune taureau sans défaut était volontairement présenté à la porte de la tente d'assignation, jusqu'à celui où il était réduit en cendres sur l'autel par l'action du feu, nous pouvons contempler Christ s'offrant lui-même, sans tache, à Dieu. Dieu a dans cette œuvre que Christ a accomplie sa joie propre, une joie dans laquelle aucune intelligence créée ne peut entrer complètement. C'est ce qui est confirmé par la loi de l'Holocauste dont il nous reste à parler. La loi de l'Holocauste. Et l'Éternel parla à Moïse, disant : Commande à Aaron et à ses fils en disant : C'est ici la loi de l'Holocauste. C'est l'Holocauste. Il sera sur le foyer, sur l'autel, toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu de l'autel brûlera sur lui. Et le sacrificateur revêtira sa tunique de lin, et mettra sur sa chair ses caleçons de lin, et il lèvera la cendre de l'holocauste que le feu a consumé sur l'autel, et la mettra à côté de l'autel. Et il ôtera ses vêtements, et revêtira d'autres vêtements, et il emportera la cendre hors du camp en un lieu pur. Et le feu qui est sur l'autel y brûlera, et on ne le laissera pas s'éteindre. Et le sacrificateur allumera du bois sur ce feu chaque matin, et y arrangera l'holocauste, et y fera fumer les graisses des sacrifices de prospérité. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, on ne le laissera pas s'éteindre. Lévitique 6, versets 1 à 6. Le feu sur l'autel consumait l'holocauste et les graisses des offrandes de prospérité. C'était la juste expression de la sainteté divine qui trouvait, en Christ et en son sacrifice, un aliment convenable. Le feu ne devait jamais s'éteindre. Ce qui représentait l'action de la sainteté divine en jugement devait être continuellement maintenu. Le feu flamboyait sur l'autel de Dieu au milieu des veilles de la nuit. Ici, le sacrificateur est la figure de Christ, dont la justice personnelle est représentée par la tunique de lin blanche. Christ s'est livré lui-même à la mort de la croix afin d'accomplir la volonté de Dieu. Il est monté aux cieux dans sa propre justice éternelle, portant avec lui le mémorial de l'œuvre qu'il a accomplie. Les cendres attestaient que le sacrifice était accompli et qu'il était accepté de Dieu. Elles étaient placées à côté de l'autel pour témoigner que le feu avait consumé le sacrifice et que celui-ci n'était pas seulement accompli, mais qu'il avait été aussi accepté. Les cendres de l'Holocauste proclamaient l'acceptation du sacrifice. Les cendres de l'offrande pour le péché proclamaient le jugement du péché. Plusieurs des points sur lesquels nous nous sommes arrêtés reparaîtront devant nous dans la suite de notre étude et prendront ainsi pour nous plus de valeur et de puissance. La comparaison des offrandes les unes avec les autres met chacune d'elles plus en relief. considérées dans leur ensemble, elles nous fournissent une vue complète de Christ. Elles sont comme autant de miroirs disposés de manière à réfléchir sous divers aspects l'image du seul parfait sacrifice. Aucun type ne pouvait à lui seul le représenter dans sa plénitude. Il fallait que nous puissions le contempler dans la vie et dans la mort, comme homme et comme victime, en rapport avec Dieu et en rapport avec nous, et c'est ainsi que les offrandes du Lévitique nous le présentent en figure. Dieu a miséricordieusement répondu de cette façon aux besoins de nos âmes. Puisse-t-il aussi maintenant nous augmenter l'intelligence pour saisir ce qu'il a préparé pour nous afin que nous en jouissions.